Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Franck Billot.
Salut.
Et de Marlène Robert.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera la folie créatrice. Moi, c'est un thème qui me fascine parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé dans mon œuvre. C'est provoquer la folie, pour moi, ça amène un délire créatif jouissant. Je l'ai provoqué à maintes reprises, surtout dans mes bandes dessinées, quand je faisais de la peinture aussi, pour atteindre des états visionnaires qui me permettaient de toucher à la vérité, à toucher à quelque chose qui sort du consensus, du mental rationnel, et je m'en suis très, très bien servi, un peu comme les surréalistes à l'époque. On pense tout de suite à Salvador Dali. Pour moi, c'est un des représentants de la folie créatrice. Il est fou, mais en même temps, il a été capable de canaliser. Et c'est ça, pour moi, la folie créatrice. Ça, c'est très différent de la folie clinique, qui, elle, est destructrice, qui rend malade, qui nous fait tomber par terre. Alors que la folie créatrice, ça nous élève.
On dit, j'ai écouté un truc aujourd'hui, un article que Jacques Languérin lisait de Science et Vie, je crois, et qui mentionnait les études d'un docteur italien, qui ça remonte à très longtemps, mais qui citait Aristote, qui disait que comment ça se fait que les grands créateurs, que ce soit dans l'art, la sculpture, la politique ou quoi que ce soit, sont tous affecté par un processus de mélancolie, qu'il appelait à l'époque. Mélancolie qui voulait dire qu'il était fragile, qu'il était instable. Et peut-être dans une optique plus psy, aujourd'hui, on les appellerait peut-être névrosés, déprimés, peu importe le truc comme tel. On dirait que ça dit, que ça suggère que d'un côté, les pressions d'une vie folle et fausse, comme la réalité actuelle, dans la société, donne une pression aux gens pour leur faire sortir quelque chose qui brûle d'envie, qui est absolument nécessaire d'exprimer, parce que justement, celui qui est sensible observe des choses qui n'ont aucune allure, qui n'ont vraiment pas de bon sens et qui va contre tout ce qui est normal ou le bien-être ou le bon. Donc, devant des pressions comme ça, c'est ça des fois que ça prend pour faire sortir un génie ou une inspiration comme telle.
Je pense que c'est des gens, enfin en tout cas pour les génies, puis aussi pour ceux qui ne sont pas, enfin en tout cas qui ne sont pas reconnus en tant que tels, c'est des personnes qui ont la capacité d'être en accord avec leurs émotions et puis de laisser libre cours à ces émotions. J'assimilerais ça un petit peu à du champagne, des bulles de champagne. C'est le truc qui fait pshh dans la tête, là.
Et l'euphorie.
Et ces créateurs qui sont capables d'aller saisir ça, d'aller saisir cette première, d'aller saisir cette émotion et puis de transformer cette émotion en quelque chose, c'est-à-dire d'avoir la capacité de se laisser émouvoir par, je sais pas moi, un truc complètement banal du genre un crayon, une tasse, un regard, enfin bref, et qui vont être capables de saisir ça et d'être complètement comme transcendé par quelque chose de banal, mais de le rendre absolument magnifique, absolument fou. Tu évoquais les surréalistes. Les surréalistes posaient un regard complètement décalé sur les choses. Et c'est ça qui est magnifique et qu'on retrouve dans l'art, c'est ce regard complètement différent, décalé, qui va transformer un petit rien en quelque chose de magnifique. Et quels que soient les styles d'art, les époques des arts. Alors, Il y a aussi des artistes, même si on a assez peu d'affection dans l'émission pour tout ce qui touche les religions, en tout cas ce qu'on fait les religions aux humains. Mais quand on prend, par exemple, ceux qui peignaient dans les églises, quand on prend qu'ils soient habités par un dieu ou qu'ils soient habités par, je pense à Michel-Ange, là, qui était en train de sculpter, qui disait qu'il fallait qu'il libère l'oiseau, ce qu'il y avait dans le bloc de pierre qu'il était en train de tailler. Et c'est ça qui est fou, c'est ce pouvoir d'aller transcender un acte, et c'est même plus l'acte de créer ou de taper la pierre, mais c'est d'aller bien plus loin que ça pour créer quelque chose. Salvador Dali aussi avait ce regard complètement métaphysique, holistique. C'était un grand psychologue, c'était un grand psychiatre à la fois, puis un taré de première, un fou de première, et c'était tout ça mélangé qui lui a permis de faire des œuvres colossales.
Ça se transmet aussi quand on regarde ses œuvres ou bien un film de Buñuel. En tout cas, moi, j'entre dans cet état de folie parce que le cerveau, il ne sait plus quoi penser. Je me rappelle très bien une scène d'un film de Buñuel où les gens sont à terre, puis soudain, il y a des oiseaux qui sortent de la cage thoracique. Ça n'a aucun sens, mais c'est poétique, c'est complètement hallucinant. Et ça, je crois que ça nous donne accès justement à des mondes parallèles, à des réalités beaucoup plus réelles que la réalité ici qui est carrée, trois dimensions, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses pas encore quelque chose? Non?
Il y a vraiment cet aspect de la... Je pense que ce qui permet à ces gens de pouvoir créer, c'est leur sensibilité, c'est leur connexion à leur sensibilité, le fait de s'accorder, de dire que ceci n'est pas une pipe ou qu'un arbre c'est plus qu'un arbre ou qu'un simple verre ça peut être l'objet d'un orgasme absolu, c'est de transcender tout ce qui est. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que ces artistes n'ont pas de limite, en fait. Les artistes créateurs, enfin, qu'ils soient grands ou qu'ils soient pas grands, enfin, pas grands, ça veut rien dire, parce qu'après, c'est plutôt qu'ils soient reconnus, qu'ils soient non reconnus, ont vraiment cette capacité à transcender, à transformer le quotidien en quelque chose de magique, et c'est ça leur puissance, et c'est aussi une invitation qui est faite aux autres, de faire quelque part la même chose.
Dans une certaine perspective, on doit se rappeler là, que c'est des gens qu'on nomme Buñuel, Dali, tout ça, c'est quand même des gens qui ont travaillé leur art et leur capacité d'exprimer longtemps. Ils ont aiguisé leurs ciseaux longtemps là, avant de s'y mettre. Ils sont arrivés à pouvoir exprimer leurs pensées d'une manière très intéressante. C'est presque justement le pouvoir de la pensée puis de le manifester en art qui est phénoménal, mais c'est pas du jour au lendemain. Et puis, on s'inspire des grands, bien sûr. Et c'est la bonne chose à faire. C'est la même chose en musique. Quand j'écoute des bons jazzmen accomplis, on voit qu'ils peuvent articuler une pensée musicale à travers un contexte changeant dans la musique. C'est encore plus effarant, particulièrement dans le jazz, parce que le jazz, c'est une mini-composition, l'improvisation, c'est une mini-composition instantanée. Donc, c'est pas comme composer un œuvre classique qu'on peut prendre des semaines et des semaines à écrire la musique et puis après ça l'interpréter. C'est qu'on improvise sur le moment avec toutes les connaissances et tout cet aiguisage qui s'est fait pendant des années. Et puis après ça, on livre quelque chose qu'on espère être mélodique et proche d'un son qui suggérerait que la musique elle-même a été, cette improvisation qu'elle a été composée. Mais ça prend quand même du travail, ces choses-là. C'est pas quelque chose que, tiens, voilà un instrument, puis joue, improvise ou quoi que ce soit. Là.
Moi, je pense ici à Miles Davis, qui m'a vraiment marqué à une certaine époque. Là. Surtout, c'est surtout son époque Bitches Brew, qui était son époque psychédélique. Il était vraiment sur toutes les drogues possibles, mais il était dans un état de folie. Et tu peux la sentir dans ce CD qui est incroyable, qui remet en question complètement la musique en tant que telle. Tu peux la sentir, cette folie. Mais c'est ça l'art, c'est qu'ils sont capables de la rendre belle. Et c'est ça que moi je trouve grandiose. Et je me suis toujours senti proche de Salvador Dali ou des peintres visionnaires, un peu comme Alex Gray, dont tu as Franck a le gilet aujourd'hui. Et cet art visionnaire, pour moi, est très important parce que c'est dans des états comme ça, des états parallèles, où je trouve mes meilleures idées. Des idées complètement nouvelles qui vont sortir du cadre du monde contemporain. Et là, je peux les ramener dans le monde. Et grâce au fait que j'ai travaillé mon art, moi aussi, depuis près de 30 ans, j'ai travaillé mon dessin, ma musique, et surtout mon dessin, mon écriture, ma pensée. Maintenant, je suis capable de transmettre des choses assez complexes. Et ça me fait jouir, ces choses-là, parce que c'est hors de moi. Ça me dépasse. Et on va faire une pause musicale avec Rodrigue et une chanson qui s'appelle « Le jour où je suis devenu fou ». Puis nous allons revenir après la pause avec ce thème, la folie créatrice.
Je danse, je vole, et j'oublie que j'ai un instinct killer et s'est développé dans ma vie oppressée. Je suis devenu fou allié. Dans mon crâne, il y a des araignées qui font la fête. Mais à qui sont ces serpents qui sont sur votre tête? Je vois des choses dans mon crâne que personne ne voit. J'entends Harry Belafonte qui chante sur les toits. Les soirs de pleine lune, vaut mieux pas qu'on m'embête. Mais à qui sont ces serpents qui sont sur votre tête? Mais Dieu qui dormait sur sa croix, le brushing élégant, il baillait l'air narquois. Je ne peux te sauver, enfin tu n'as pas d'argent. Le prix des miracles a augmenté ces derniers temps. Je suis un elfe civil, mais je suis pas un saint. Avec ma baguette magique, je nague les videurs et les flics. Dans les soirées mondaines, on me pose souvent la question. D'après toi, l'univers a-t-il une dimension? Moi je dis qu'il n'a de borne que l'imagination, mais... sont heureuses et la mer est si secrète que ses icebergs sont des sorbets. Je vois des choses dans mon crâne que personne ne voit. J'entends un rire et la fonte qui chante sur les toits. Les soirs de pleine lune, ne vaut mieux pas qu'on m'embête. Mais à qui sont ces serpents qui sont sur votre tête? Mais
Thank you.
retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la folie créatrice. À travers l'histoire, la folie et l'ivresse ont toujours été liés ensemble. On pense par exemple aux Grecs, la folie bachique, où les gens prenaient du vin et ils se sentaient inspirés par les dieux, parce que les dieux prenaient aussi du vin. Et cette ivresse, moi, je la connais très bien. Je l'ai sentie à plusieurs fois de ma vie. C'est une ivresse extatique, où on est connecté avec l'inspiration, avec... la lumière, avec ce que je suis vraiment, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on devrait tous apprendre. Ça devrait être appris à l'école, par exemple. Et on devrait avoir des gens qui nous enseignent à rentrer dans ces états-là, au lieu de nous programmer dès l'enfance à être des carrés, des ordinateurs, des robots. Et ça prendrait cette folie qui nous empêcherait de devenir fous. Parce que de plus en plus de gens sont fous. On en parlait depuis au début, de névrosés, déprimés. Et je pense que la folie créatrice est le meilleur remède contre la folie ambiante, la folie destructrice.
On doit dire que le terme folie a tendance à être conçu comme un aspect négatif. Quand la folie est là, donc on perd le contrôle, on ne sait pas quoi s'attendre. Donc, c'est pas un terme qui est de prime abord nécessairement positif dans l'ensemble. Je crois que ce serait peut-être une bonne idée de mettre ça en contexte, parce que la folie créatrice, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut ou c'est désirable d'avoir un contexte de d'oisivité créatrice, de temps où ce que la créativité est permise et que les moyens sont disponibles pour le faire. Qu'on a le temps pour faire ces choses-là, puis de se libérer, puis de s'exprimer. Si, comme on disait tantôt, on est dans une semaine de productivité de 40 heures semaine, comme certaines compagnies désirent même élever ça à plus qu'une semaine normale, on s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Je crois que l'être humain, d'abord et avant tout, est fait pour être créateur. C'est comme un petit peu deux polarités quand je réfléchis à ça. On voit souvent ça dans la vie à différents niveaux. On dirait d'un côté, il y a des gens qui font des choses dans le but de faire des choses prévisibles et répétitives. Et il y a d'autres gens qui font des choses dans le but de voir qu'est-ce qui va se passer. On sème une forêt, une forêt pour voir qu'est-ce qui va pousser d'un côté, ou d'un autre côté, on sème, on cultive des arbres dans le but de les couper, dans le but que ça devienne des 2x4, comme on dit au Québec. Il y a différentes pensées sur la chose. Moi, j'aime l'idée de vivre et laisser vivre, de laisser les spores s'en aller dans la direction qu'ils iront, puis voir ce qu'on va pouvoir apprendre et voir des combinaisons. Donc, dans le sens, cette créativité-là, elle demande une certaine détente, une certaine sortie des conventions, dans un sens.
Il y a la folie créatrice de la vie en elle-même. La folie créatrice de la vie, c'est-à-dire que quand on regarde la vie, la manifestation de la vie, c'est complètement fou ce qui est créé. Après, savoir ce qui est derrière ou ce qui génère les montagnes, qui fait pousser les arbres ou faire naître les enfants, il y a la manifestation même de la vie, c'est une folie pure. Regardez les fleurs, regardez les animaux, la beauté d'un tigre du Bengale ou d'un chat errant, ou juste d'une fleur, qu'elle soit complètement naturelle, c'est absolument magnifique. Tout le monde a été ébahi, je pense, des merveilles qu'il y a, par exemple, dans les océans, avec les poissons de multiples couleurs. Si ça, c'est pas de la folie créatrice, si ça, c'est pas magnifique, qu'est-ce que c'est? Et regardons-nous du côté des humains, le fait de permettre que la vie puisse donner naissance, qu'une femme puisse donner naissance à un enfant. Est-ce que ça c'est pas magnifique? Déjà, rien que le processus, c'est complètement hallucinant. Je sais pas ce que tu en penses.
Mais pour ça, il faut se laisser aller. Effectivement, je reviens sur ce que Robert avait dit. Prendre le temps, s'exprimer. Bah, le fait de faire l'amour pour produire un enfant, pour concevoir un enfant, ça fait partie, c'est effectivement, ça fait partie de la folie créatrice, dans le sens de faire un enfant, de donner la vie à quelqu'un, ce qui est quelque chose de effectivement magnifique. Mais il faut avant ça, se laisser aller, se libérer et prendre le temps.
Je suis en accord total avec ça. Mais l'une des choses qu'on parlait tantôt, tu sais, la folie créatrice ou la folie, si on parle de l'autre aspect de l'envers de la médaille, tout à l'heure, Franck faisait allusion aux beautés de la mer et des choses incroyables. On voit aussi en ce moment quelque chose d'incroyable, mais à une autre polarité, c'est-à-dire il existe maintenant un nouveau continent qui est composé de détritus puis de d'ordures plastifiées qui est issu des produits et de l'usage et de la productivité moderne en Amérique et d'autres pays industrialisés, qui est vraiment l'autre côté de la médaille. Donc, ce manque de folie ou ce manque de créativité ou cette obsession à vouloir faire partout, tout le monde, la même chose, a des côtés néfastes aussi. C'est vraiment l'opposé, je dirais, d'un aspect où ce que toutes les choses sont prévisibles, sont orientées vers une production de consommation de choses qu'après ça, on ne sait plus quoi faire avec. Donc, on défait la nature pour la transformer en produit, en matière première, puis après ça, les transformer en des trucs qu'on jette par la suite et puis qui aboutissent dans l'océan. On a vraiment un malaise là, qu'on doit rapidement changer dans notre pensée à plusieurs niveaux. Encore là, on a besoin de créativité pour ça.
Socrate avait parlé de deux types de folie. C'était la folie de Dieu, qu'on retrouve chez les saints, chez les sages, chez les êtres réalisés. Et tu as la folie malade, des gens fous, qui eux sont destructeurs. Mais ça peut arriver que des gens fous ont aussi des possibilités de percevoir des choses d'une manière extraordinaire. Comme en Inde, quand quelqu'un qui a des maladies mentales n'est pas nécessairement mis dans un hôpital psychiatrique, il peut être vénéré comme un dieu et on peut venir lui demander des conseils. Ce qui n'arrive pas beaucoup ici. Moi, j'ai beaucoup entré dans ce sujet quand j'ai étudié les drogues psychédéliques. Et j'en ai fait moi-même. Et ça m'a fait entrer dans des états de folie. Quand le LSD a été créé en 1945, il avait été envoyé tout de suite à des psychiatres pour les aider à comprendre leurs patients. Parce que ça donne vraiment une porte. C'est une porte ouverte sur la folie. Tu peux prendre ça, puis pendant quelques heures, tu vas entrer dans un état de folie. Et si tu comprends que tu as toi-même provoqué ça, tu peux passer à travers. Et en sortir grandi, parce que dans cet état-là, le mental est complètement délié. Et tu entres dans l'esprit qui, lui, est non linéaire. Mmh. Donc, tu peux comprendre les paradoxes.
D'ailleurs, les aborigènes en Australie considèrent que la réalité de tous les jours, c'est le rêve, et que le rêve, c'est la réalité. Ils voient ça comme l'inverse. Donc, on vit dans leur quotidien du jour, c'est une fabrication, c'est une illusion, c'est pas vrai. C'est pas loin de la vérité dans une certaine mesure.
C'est très intéressant, ça. Ouais. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça évoque le fait qu'il y a, en fonction des civilisations, en fonction aussi des époques, c'est comment on considère la folie. Qu'est-ce que c'est la folie? Aujourd'hui, la folie, c'est... c'est peut-être justement de se permettre la folie, c'est-à-dire que c'est fou de pouvoir sortir des rails qui sont d'avoir un travail, de commencer à 8h à 9h le matin puis finir à 5h, et c'est ça qui est la norme, et ne pas faire ça, c'est une folie, alors que pour d'autres ça va être l'inverse. Mais il y a aussi la folie créatrice et la folie destructrice. La folie destructrice, ça peut être par exemple un chef d'État qui va partir en vrille, qui va avoir des tendances de partir en guerre, de créer des conflits, d'être complètement habité par ou obsédé par son désir de domination. Et ça va, on a suffisamment de dictateurs pour le voir au cours de l'histoire. Et ça, là, cette folie est complètement destructrice, au même titre que la folie est destructrice quand on est justement dans une folie de consommation, quand on ne respecte plus la vie, et que ça donne justement ces conséquences que tu as évoquées avec ces océans remplis de bouteilles. Mais il y a d'autres folies qui vont transformer ça. Peut-être qu'on verra ça après la pause.
Eh bien oui, justement, on va écouter un groupe, ça va être le groupe Swing, et cette chanson qui s'appelle La Folie. Puis nous allons revenir après avec ce thème, La Folie Créatrice.
Il avait des bonnes idées croches dans la tête, mille et une raisons de rester à maison, mais toujours attiré par l'œil de la tempête. Il y a vraiment rien à faire, l'homme à la moustache a mauvais caractère. Il y a vraiment rien à faire, il nous tentera ce soir.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la folie créatrice. Moi, je m'en rappelle toujours quand j'ai découvert les poèmes de Rimbaud. C'est un dérèglement méthodique de tous les sens et ça m'a tellement inspiré. Je m'en suis beaucoup servi un peu de ce dérèglement parce que c'est incroyable à quel point on a accès à une réalité parallèle, à quelque chose, une réalité plus vraie que nature. Et c'est ça que les grands artistes ont touché, ou les grands créateurs. Parce que dans cet état de folie, je trouve qu'on sort de la personne. On devient un être. On devient quelque chose de plus vaste. Et on n'a pas d'agenda. Tantôt, tu parlais tantôt de cette folie qui est peut-être menée à notre destruction. Mais il y a là un agenda. Puis vraiment, je crois que les hommes gris ont vraiment pour but de détruire les êtres humains, de nous massacrer, de nous rendre malades. Et donc, pour s'en échapper, je pense que la folie créatrice peut nous offrir des solutions complètement hors... Tu sais, en anglais, on dit « think outside of the box ». Penser à dehors de la boîte, et je crois qu'on en est là présentement. Il y a une volonté des hommes gris, de l'appareil manipulateur plutocratique, de nous rendre malades, de nous rendre carrés, un peu comme dans le 1984 de George Orwell.
Orwell.
C'était ça qui est en train de se passer. Mais pour s'en sortir, ça nous prend de la créativité. Donc, ça, c'est ça que ça prend, à mon avis, la super créativité aujourd'hui.
Mais c'est pas complet, cette formule ou cette recette que tu proposes, d'après moi. Oui, ça prend de la créativité, bien sûr, mais avant d'avoir de la créativité et pouvoir l'utiliser, ça nous prend une énergie personnelle. Et on est dans une population surmédicamentée, qui bouffe de la malbouffe, ou même quand on mange pas de la malbouffe, on a plein de choses qui sont génétiquement modifiées, donc qui ont perdu leur vie, parce que quand tu commences à baragouiner avec la génétique, tu commences à défaire la génétique, puis tu te retrouves avec des produits génétiquement fâchés qui prennent leur revanche dans ton estomac et qui te bouffent ton énergie. Donc, et qui te donnent une maladie en échange. Donc, le Monsanto et compagnie, on connaît le grand méchant Monsanto, fout vraiment le bordel dans tout là-dedans. Et dans un sens... on a donc plusieurs petites choses à passer à travers. Autrement dit, il y a un besoin d'une certaine hygiène personnelle énergétique pour arriver à pouvoir enfin s'asseoir et dire, bon, maintenant, j'ai l'énergie, j'ai le temps, j'ai créé un horaire qui me permet d'y aller, puis j'y vais à fond. Alors, c'est un petit peu, parce que c'est rapide de dire ça, c'est vite de dire ça, mais il faut avoir l'énergie pour soutenir cet élan créatif.
Donc ça part à la base aussi d'une certaine volonté, déjà d'une reconnexion à certainement ce qu'on pourrait considérer comme probablement que tout le monde a un potentiel créatif plus ou moins illimité. Après, c'est la connexion que l'on fait avec soi pour vraiment accéder à ça et ouvrir les portes. C'est vrai que les artistes dont on a parlé en début d'émission, les grands artistes, les grands génies sont connectés déjà d'office avec ça, et après ils ne font qu'explorer encore davantage, et surtout ils ne se mettent aucune limite à leur pouvoir créateur. Pour peut-être entre guillemets monsieur et madame tout le monde, ça prend, comme tu l'évoquais Robert, d'avoir une volonté à la base, et puis d'aller découvrir ça, d'aller oser, d'aller en dehors de la boîte, comme tu l'évoquais Nicolas, pour justement se permettre et de se dire, mais tiens, peut-être que j'ai un gros potentiel, peut-être que ce que je suis n'est pas ce que l'on dit de moi ou ce que la société me renvoie, et je suis peut-être certainement beaucoup plus que un amas d'os et puis une cervelle et un corps avec des habits, des chaussures. Une fois que tu as pris conscience que tu es un peu plus que ton apparence et toutes tes limitations physiques et mentales, tu peux te permettre d'aller explorer d'autres choses et de se dire, bah tiens, c'est certainement possible d'aller explorer d'autres choses et d'explorer d'autres facettes de moi-même, et donc de ce fait d'aller explorer d'autres univers.
Je pense que c'est quand même compliqué de faire ça pour la majorité des gens. Le fait de s'extravertir, le fait de dire je suis capable de, je ne suis pas que ce que les gens font, enfin ce que je reflète pour les gens. Je pense que c'est quand même compliqué parce qu'on est dans cette société de consommation effectivement où il y a tout ce bourrage de médicaments dès l'enfance de plus en plus, que ce soit aussi au niveau de l'école. Où il y a les programmes, il y a le fait de rester dans les règles, il faut mettre des cadres à des enfants, il faut absolument qu'ils mangent à telle heure, qu'ils dorment à telle heure, qu'ils se lèvent à telle heure, que pendant les vacances ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça freine tout ça, je pense. Ça freine énormément leur imagination, leur développement, parce qu'ils n'ont pas... pour moi, comme je prends l'exemple de mon enfant... je le laisse, si on va par exemple à la garderie, je l'emmène à la garderie, il a envie de s'arrêter 5 minutes pour regarder dans la terre, là, vous savez, les arbres qu'il y a sur les trottoirs. Il fouille dans la terre, il veut voir s'il y a des vers de terre, des choses comme ça. Un enfant qui habite surtout en ville, et si on ne lui laisse pas l'occasion de faire ça, de sentir les fleurs, de regarder comment un écureuil monte dans un arbre, il ne saura pas ça. Ça va devenir banal, il va passer devant et jamais il se rendra compte que ça va lui paraître tellement normal qu'au final, il ne verra même plus qu'il y a des écureuils. Il ne saura même pas que quand il y a de la terre, ben, c'est possible d'avoir des vers de terre. Et tout ça, je pense qu'on freine tellement nos enfants que même nous, on a été freinés quand on était gamins. Et le fait de grandir dans ce moule en ayant été freinés, je pense que ça met des barrières psychologiques et qu'on a énormément de mal à se libérer tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est folie créatrice, effectivement.
Mais l'imagination, à mon avis, est comme de la paille très, très sec. Il suffit là, d'une étincelle, elle peut s'enflammer. Et pour moi, ça vient de l'inspiration. Si tu rencontres un professeur qui t'inspire ou quelqu'un... Moi, je me rappelle que j'ai eu un professeur qui m'a inspiré en secondaire 1. Il avait compris que j'étais un bon BDiste. Et puis, il avait spoté 3 autres BDistes dans la même année. Puis, il nous avait tous pris à part. Puis, le midi, on se rencontrait dans une classe puis on faisait de la bande dessinée ensemble. Et... je me sentais enfin avec des gens comme moi parce que je me sentais pas comme les autres. Je parlais pas beaucoup. J'étais toujours, tu sais, je dessinais tout le temps. Mais d'avoir d'autres BDistes, ces gars-là, un en particulier, je suis resté longtemps en contact avec lui. On a fait des choses ensemble, des projets communs. Et cette inspiration, je la vois plus à l'école. C'est vraiment, je trouve que l'école est vraiment un éteignoir d'imagination, de création. Par chance que moi, j'étais complètement délirant au niveau de la créativité. Et puis, à côté, ben, j'ai toujours fait de la création parce que si j'avais écouté comme on me disait de faire puis j'avais fait exactement selon le moule, franchement, je serais comme la majorité des gens aujourd'hui. Ils sont délavés. Moi, je trouve que les gens sont pas très inspirants en général. Ils ont accepté, ils ont capitulé, ils ont arrêté de... Justement, cette folie créatrice, c'est le délire, c'est l'orgasme, c'est la paresse de dire « j'ai pas le goût de travailler aujourd'hui, je le travaille pas, je pense à rien ». Et c'est justement dans ces moments-là que moi, j'ai mes meilleures idées, des
mais
moments de
détente.
Mais
c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde.
C'est sûr, mais si les gens ne se le permettent pas, c'est eux qui subissent les conséquences. Nous, on dit que c'est possible. C'est possible de le faire, mais il faut oser.
Mais dans l'absolu, tout est possible, hein, je pense.
L'insécurité domine dans l'esprit de plusieurs. Et il faut se rappeler peut-être la phrase d'un des livres d'Alan Watts, « La bienheureuse insécurité, vive la bienheureuse insécurité », qui, d'un côté, nous garde à l'affût, puis nous garde dans un sens de conscience éveillée. Et en même temps, nous rappelle que c'est plus le cadeau est plus grand quand on devient créatif que quand on demeure seulement dans une routine supposément sécure. On paye un gros prix, ce que les gens ne voient pas ou n'ont pas conscience, c'est que les gens payent un gros prix d'être pris dans un job 9 à 5. Et puis, tu sais, ta vie, c'est quelque chose. Et puis, tu échanges tes heures pour des dollars. Il n'y a pas de problème à échanger tes heures pour des dollars. Mais au moins, essaie de le faire dans une atmosphère où ce que tes neurones sont maintenus actifs et ne sont pas assommés par un travail de production répétitif qui est tel que tu deviens tout simplement...
En effet, je crois que ça use vraiment le système nerveux. Moi, les moments où je suis dans cet état de folie créatrice, ça me fait du bien. C'est comme un orgasme. Mm-hmm. Ça enlève toutes les tensions. Je les envoie toutes dans un livre ou dans une peinture ou dans une œuvre musicale. Je les sors de moi. Mm-hmm. Donc, moi, je suis vraiment heureux. Je suis bien dans ma peau parce que tous les moments où j'ai eu des tensions, des choses qui m'irritaient, je m'en suis toujours servi pour créer quelque chose de beau et puis le sortir de moi et le lancer dans le monde. Et une fois que c'est dans le monde, ça aide d'autres gens aussi à comprendre qu'ils ne sont pas seuls.
Mais c'est vrai, on voit aussi beaucoup que les personnes qui vivent leur vie, au lieu de la subir, justement, ils vieillissent beaucoup mieux. Ça se voit à
oui,
long terme.
Ça paraît dans ton visage. Mm. La vie que tu as eue paraît dans ton visage après 50 ans, 60 ans. Si tu as été heureux, si tu as été irrité, si tu as été... Tout paraît dans ton visage. Donc, c'est dans l'âge avancé, on voit vraiment l'âme de la personne dans son visage. Et ça, pour moi, c'est important... Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont aller jouer avec la nature, mais ça paraît aussi quelqu'un qui s'est fait remonter le visage. Ouais. Il a l'air plastique, il n'a pas l'air vrai. Alors que tu peux avoir des très belles femmes qui ne se sont jamais fait retoucher et qui ont une beauté qui accepte, ils s'acceptent tels qu'ils sont. Et pour moi, ça fait partie de la beauté de quelqu'un qui a exprimé sa folie, qui a osé dire qu'est-ce qu'il voulait. Si tu veux avoir plusieurs compagnes, plusieurs compagnons, mais de le dire puis de le faire, de ne pas faire attention à ce que les autres pensent vraiment dans la société, parce que tu vas arriver à 60 ans, 70 ans, tu n'auras pas vécu tes rêves. Mais on va passer une pause musicale avec Patrice Michaud, une chanson qui s'appelle « Mécanique générale ». Puis nous allons revenir avec ce thème, la folie créatrice.
Tu avais les ongles longs, j'avais les ondes courtes, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont, croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque, Icar cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline, reste là encore quelques minutes pour me dire, oh mon bel ami, oh mon âme, je crie, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon âme, je crie, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts?
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la folie créatrice. Moi, ce que j'aime dans cet aspect de la folie créatrice, c'est qu'elle me donne une perspective différente sur le monde. Je l'ai trouvé grâce à mon œuvre graphique, les drogues psychédéliques, mais divers moyens aussi que j'ai trouvé, la sexualité lumière aussi. Quand tu bénis à chaque fois que tu jouis, tu entres dans un état très, très différent parce qu'il y a de la conscience. Alors que la majorité des gens vont simplement éjaculer comme mécaniquement. Certains non. Des gens comme Robert ont une pratique taoïste qui pourra nous expliquer un jour dans un podcast. Mais l'idée ici est de sortir de la boîte. Et ça, j'adore ça parce que c'est là que moi j'ai mes meilleures idées. Et c'est là que je me retrouve finalement sur ma voie. Parce que si on est comme un mouton, puis on suit tout le monde, ben on sait bien que les gens en avant, ils ne cherchent pas nécessairement le bien-être du troupeau. Alors, sortir du troupeau, sans ne plus être un mouton, être quelque chose d'autre, pour moi, ça fait partie de la réalisation qui mène justement à la libération et au bonheur, si on peut revenir au thème de l'émission.
Nous sommes dans un environnement où ce que la plupart des gens sont endormis, sont sous une genre de psychose, une genre de d'ivresse, mais dans le sens négatif, dans le sens où ils n'ont pas de conscience ou ils ont très peu de conscience, sont plus préoccupés à la survie. Et beaucoup de distractions les amènent à faire ça. Je dois faire de l'argent pour payer pour ma voiture, je dois avoir une voiture pour aller avoir un emploi. Tu sais, c'est une genre de boucle comme ça qui n'a aucun sens. Mais c'est souvent, quand on fait l'histoire courte, là, quand on la distille, c'est souvent ça. J'aimerais juste faire un partage d'une idée ou d'une prise de conscience qui a été bien illustrée dans un film comme qu'on voit là, dans le film The Matrix, La Matrice. Qu'est-ce que c'est la réalité, hein? À un moment donné, quand Mobius, je crois le nom du caractère du personnage, parle à Neo puis il dit ben, c'est quoi? Et puis ils sont dans une simulation. Si tu parles que c'est l'ensemble des pulsations électriques que ton cerveau enregistre par tes capteurs, tes senseurs, c'est quoi tes capteurs? Si on parle, par exemple, d'une chose très concrète, de l'œil, l'iris de l'œil est composé d'une multitude de senseurs en forme conique. Ces formes coniques-là, mes chers amis, ils ont une dimension, ils ont une proportion, ils ont une géométrie. Et vu qu'ils ont une géométrie, ils vont donc filtrer des fréquences spécifiques. Vu qu'ils filtrent des fréquences spécifiques, donc on voit qu'il y a certaines fréquences qui ne passeront pas. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas avec l'œil. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec l'œil, mais il y a des choses qu'on ne voit pas avec l'œil. Donc, cette essence qui est votre être, si vous vous la donnez, anime ce costume de chair avec lequel vous explorez votre réalité, n'est pas muni, génétiquement parlant, de tout ce qu'il faut pour voir tout. Cependant, l'être, pour moi, l'est. Donc, c'est une question de dépasser ces choses-là et de faire les démarches qu'il faut. C'est un peu vague, là, qu'est-ce que je parle, mais c'est d'amener cette prise de conscience que vous êtes vraiment beaucoup plus que juste ce costume de chair que vous habitez.
Il y a ça. En fait, ça passe par de multiples prises de conscience. Et c'est ça, c'est ces multiples prises de conscience qui permettent justement d'accéder aux états que tu évoquais tout à l'heure, Nicolas. Ne serait-ce que dans la réalité tous les jours, des fois, ça peut être d'un assourdissant banal, et pourtant, ça peut être complètement magique. Pas plus tard que, je sais plus, c'était mercredi, je passe dans un parc, et puis j'avais mon appareil photo avec moi, et je vois un écureuil. Alors, un écureuil à Montréal, c'est comme de la glace sur la banquise, c'est pas très très original. Mais par contre, le fait de s'arrêter et de voir cet écureuil, et surtout de jouer avec cet écureuil, parce qu'en fait, donc j'avais mon appareil photo, et tout d'un coup, quand je regardais d'un côté, l'écureuil se mettait de l'autre côté du tronc d'arbre. Et on a joué comme ça pendant 10 minutes, un coup je te regarde, un coup je me cache, et puis un coup je me laisse photographier, puis un coup je me laisse plus photographier, ça durait comme ça 10 minutes, mais j'ai trouvé ça absolument magique. C'est encore plus magique quand tu regardes les photos après, où tu vois, où tu te rends compte que ce moment, quand tu l'as vécu sur le moment, c'était déjà génial, mais que c'était encore, peut-être encore plus génial que génial. C'est juste une première porte qui s'ouvre. Mais c'est en ouvrant plusieurs portes sur un quotidien qui peut paraître banal, s'arrêter. Tu évoquais tout à l'heure le fait de laisser à ton enfant de pouvoir regarder la terre, de s'émerveiller de la terre et d'aller voir les petites bestioles qu'il y a dedans. Ça, c'est quand t'es enfant, de lui permettre ça, je pense que c'est déjà un magnifique cadeau. Puis c'est de se permettre en tant qu'adulte de pouvoir s'émerveiller d'un rien, en fait. Rien, je ne sais pas si c'est un rien, un écureuil dans un arbre, mais c'est ça. Et une fois que tu as ouvert cette première porte et que tu ouvres encore d'autres portes et que tu te permets de sortir de la boîte, là, ça devient la vie devient magnifique et super intéressante parce que tu changes complètement de programme, tu sors quelque part de ta matrice ou de la matrice et ça te permet d'explorer des territoires inconnus. Et donc, si c'est inconnu, c'est encore plus génial parce que tu peux tout faire et tu peux aller outrepasser les limites que tu puisses te mettre puisque tu sais pas dans quoi tu t'embarques en fait avec ça.
Exact, ça peut commencer par des petites choses, de se donner la permission de prendre un moment comme tu as fait. C'est la porte.
Ça me rappelle, moi, dans ma jeunesse, je regardais, on avait l'arrière-cour, c'est la ruelle qu'on disait à l'époque, qui sont maintenant changées, mais il y avait des cours d'eau, des fois, générés par soit quelqu'un qui faisait du lavage ou quoi que ce soit. Il y avait un tout petit cours d'eau, une petite... un petit ruisseau qui se formait dans, à l'arrière de chez moi. Et juste le fait, quand j'étais petit, je regardais l'eau passer, puis avec la réflexion du soleil sur le contraste très foncé, je voyais l'eau, puis des réflexions multiples, et puis il y avait là-dedans une magie de perception qui, par la suite, curieusement, quand j'ai lu les livres de Carlos Castaneda, où Don Juan parle de la... Je crois qu'il appelait ça la magie de l'eau, qui avait une certaine... sorcellerie qui expliquait où on pouvait voyager, où on pouvait utiliser le pouvoir de l'eau pour certaines choses. Et j'y crois parce que l'eau est magique, hein? on en est composé, mais ça, c'est une manière où ce que l'œil est flooded, comment on dit, est inondé de perceptions telles que ta perception est comme mise au défi de laisser tomber tes gardes pour laisser entrer des formes que tu ne voyais pas avant. C'est simple, hein? C'est juste regarder de l'eau bouger.
Mais à propos de ça, dans le même esprit, il y a ce qu'on appelle le phosphène. Hein? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le phosphène. C'est de regarder, par exemple, quand tu regardes une source lumineuse comme une bougie et que tu la regardes fixement pendant un certain temps. Au bout d'un moment, comme le mental il est fatigué, il décroche. Et donc là, tu t'accèdes encore à, on va dire, d'autres états. C'est tout con. C'est comme regarder l'eau, c'est pareil. Quand tu as le mental qui décroche, puis que tu es focusé sur la magie, sur les couleurs, et que tu laisses ça, ça te permet d'accéder à d'autres états. Et les moines, par exemple, quand ils fixaient des bijoux, enfin, des bougies, arrivaient à faire arrivaient à accéder à d'autres états. Et le docteur Lefebvre, qui a mis en avant le phosphénisme, avait développé comme ça toute une technique, c'est-à-dire en fixant une lampe, une source de chaleur, et puis en y allant avec des rythmes cardiaques, en allant avec certains exercices par rapport à ça. Ça te permet, en fermant, en gardant la source de lumière, et puis en faisant des pratiques bien spécifiques, ça te permet justement d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Donc encore d'autres portes qui s'ouvrent, ce qui veut dire que il y a autant de portes qu'il puisse y avoir de sensibilité humaine. Et ça mixé avec le fait d'accepter de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, et puis à sortir de la boîte, ça c'est vraiment des beaux cadeaux qui font vraiment connecter avec la magie de la vie, en fait.
Ça me fait penser à des tribus, certaines tribus en Amérique latine qui prennent du ayahuasca, par exemple, et qui vont entrer dans des états comme ça de folie contrôlée. Et l'aspect du créateur, c'est qu'après, ils vont ramener la sagesse et ils vont l'appliquer dans leur vie. Donc, ça sauve certaines tribus de l'alcoolisme, de certains problèmes. On peut utiliser les rêves aussi. Il y a une histoire d'une tribu d'Inuit là, qui n'arrivait pas à manger, qui était sur le point de mourir, et le chaman a eu un rêve une nuit, et ça lui disait, par là-bas, vers l'est, vous allez trouver la nourriture. Et ils ont écouté cette parce que c'est complètement fou d'écouter les rêves dans notre société, les gens n'écoutent pas leurs rêves, mais toutes les fois, moi, j'ai écouté mes rêves, je suis toujours arrivé au bon endroit. Il est toujours arrivé des miracles. Et ça, ça fait partie de... La folie, c'est, à mon avis, c'est la réalité plus réelle dont on parle tantôt du rêve dont il faut se réveiller. Bien, pour moi, la folie, c'est l'état réel. Un état non linéaire. Et lorsqu'on rentre ici, on est comme compressé dans un état très, très, très minime.
On nous amène à penser aussi que les capacités de l'être humain sont limitées, mais il y a des choses de plus en plus fréquentes qu'on voit, qu'on entend parler, puis je suis content de l'époque parce que c'est un grand dévoilement en ce moment, que ce soit le phénomène de bilocation ou ce qu'on peut visualiser des choses à distance sans y être, avec précision. Le potentiel humain ne fait que commencer à être découvert.
Eh bien, c'est déjà tout pour cette émission aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci au Mouvement Jovialiste et à Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet complètement fou. Et je vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine et bon week-end.
Salut, salut.
Bon week-end.
Retrouvez-nous sur proposurlebonheur.com.
Thank you.